avant de présenter les speakers, les invités qui vont parler au sujet de géopolitique et jeux vidéo, les jeux miroirs du monde et de ces crises, un petit mot, parce que là, du coup, on va se retrouver un petit peu en porte-à-faux avec le genre post-apo, puisque si on le prend au pied de la lettre, on est forcément après l'effondrement, comme le disait Erwan Cario, un thème très à la mode. Et ce dont on va parler maintenant, ce serait plutôt un monde pré-effondrement, donc pré-apo, mais ce sera d'ailleurs le cas dans une autre table ronde un peu plus tard. Donc, c'est-à-dire à quel moment se place cet effondrement et à quel moment on se situe dans les jeux vidéo. Par exemple, un Walking Dead, celui de Telltale, en tout cas, je ne sais pas si c'est réellement un post-apo ou si c'est au milieu de la peau, quoi. C'est-à-dire que l'effondrement, il est tout autour et tout se casse la figure. Voilà, donc, et ce dont on va parler à propos de géopolitique, c'est bien de ça. C'est-à-dire qu'on va arriver sur des univers qui préparent, en tout cas, qui préparent à cet effondrement. Louis-Marie Roch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur créatif cofondateur d'Eversim, oui. Une société qui est notamment à l'origine de Geopolitical Simulator 4. Oui. En 2020, c'est la dernière itération de cette simulation, on va le voir, très réaliste. Et Tony Fortin, bonjour.
Bonjour.
Chargé d'études à l'Observatoire des armements et enseignant en game design. On va donc parler de géopolitique et essayer de savoir si ces jeux vidéo, on a touché du doigt ce thème dans la précédente table ronde, si finalement ces jeux vidéo peuvent être miroirs de nos propres crises à venir ou même de nos crises passées. Et si, on va dire, le monde interactif, c'est un peu dystopique du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a quand même la main, c'est ce qu'on disait, on a quand même la main sur ces crises qui se passent à l'écran, est-ce qu'on peut changer la donne? En tout cas, est-ce qu'on peut nous inviter à changer la donne? Louis-Marie Roch, c'est en 2003 que vous lancez l'aventure Geopolitical Simulator. Pourquoi? Comment ça s'est passé?
Mais en fait, pour resituer un petit peu dans le contexte, moi j'avais, depuis les années 82-83, créer des jeux, au départ en indépendant, et puis en 87, j'avais monté avec mon frère une entreprise de création de jeux vidéo qui s'appelait Silmarils. Et puis en 2003, donc, on a été amené à créer une nouvelle entreprise qui s'appelle Eversim. Et à ce moment, en fait, on s'est dit, face à cette possibilité, cette opportunité de créer quelque chose de neuf, qu'il fallait trouver à la fois un segment dans le marché du jeu vidéo où on pouvait trouver notre place, et puis aussi quelque chose qui, finalement, allait cibler des joueurs plus âgés. Parce que nous, finalement, 20 ans plus tôt, on était jeunes et on avait ces envies de jeux vidéo.
Vous avez 40 ans, hein, quand vous
voilà,
créez.
Voilà, j'avais 40 ans.
Voilà.
Et là, l'idée, c'est de se dire, finalement, tous les joueurs... pour qui on avait fait des jeux 20 ans plus tôt, aujourd'hui ils étaient aussi plus âgés et pouvaient s'intéresser. D'abord, ils étaient beaucoup plus nombreux, parce que c'était un vrai marché qui existait, mais aussi ils pouvaient trouver des centres d'intérêt différents des jeux beaucoup plus classiques qu'on avait créés par le passé, qui étaient, à part quelques exceptions, on avait créé des jeux d'aventure, des jeux de rôle, beaucoup de ces choses-là. Et de là, de se dire, on va apporter une thématique et un marché un peu plus étroit, parce que le marché est devenu très concurrentiel au bout de toutes ces années, et de se spécialiser, et ce choix était de dire, on va parler aux gens de politique et de monde actuel, à travers une simulation, où la grande idée, ça va être de dire, le monde qui nous entoure est imparfait, les politiques ne font pas toujours ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et là, dans le jeu, on va être confronté à tout ça et on va essayer de changer le monde à la place. Et qu'est-ce qu'on ferait si on était chef d'État ou président? Voilà l'idée de base.
Basé sur... Parce que des jeux où on peut être président, finalement, ou dictateur, je pense, ou dictateur, ça y en a peut-être beaucoup. Mais là, on s'inscrit en s'inscrivant bien dans le réel. C'est-à-dire en retrouvant des événements qu'on a connus ou vus dans les journaux, lus...
Alors, dans le nom du jeu, le nom de la série de jeux, puisque c'est au fil de toutes ces années, on a décliné beaucoup de versions successives, dont la dernière, dite 2020 édition, on s'attache beaucoup à la simulation. Et Geopolitical Simulator, il y a simulateur dedans. Donc c'est bien le but, c'est de dire, c'est pas juste, on va dérouler ici, voilà, on va incarner un puissant de ce monde. Non, c'est pas juste ça. C'est on se confronte à la réalité et tous les aspects économiques, sociaux, tout est calculé à l'intérieur du simulateur pour que le joueur soit mis en situation. Et ce qui lui permet deux choses, déjà, c'est d'essayer de se dire, mais moi, si j'étais à la place d'un chef d'État, je ferais ça. Et il peut le tester. Donc, jusqu'à un certain stade, évidemment, parce que toute simulation a ses limites, mais il peut le tester. Et puis après, il peut aussi tenter de faire des changements complets d'une société, ou de renverser une société. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on pourrait faire chuter un pouvoir en incarnant une opposition, alors ça peut être de façon violente, ça peut être de façon démocratique, toutes ces possibilités existent dans le jeu. Mais le mot simulation est vraiment central.
Tony Fortin, le jeu vidéo, est-ce qu'il a attendu le début des années 2000 pour parler du monde, pour être un miroir du monde, et comment le fait-il quand il le fait ?
En fait, il a pas attendu les années 2000. Dès son apparition, il s'ancre dans une réalité historico-géopolitique, puisqu'il est né quand même dans les laboratoires américains pendant la guerre froide, dans les laboratoires qui justement permettaient de tester le nucléaire militaire avec des hackers qui programmaient des petits logiciels qui prenaient la forme de jeux vidéo, mais qui étaient faits pour tester les machines, les ordinateurs. Dont c'est comme ça qu'a été créé Space War, le premier jeu vidéo, et c'est dans ce contexte que sont nés d'autres jeux vidéo tels que Adventure. Donc ça s'inscrit dans un contexte militaire, et ça explique aussi pourquoi y a beaucoup de jeux de guerre qui prennent dans le jeu vidéo, qui se nourrissent à la fois effectivement des conflits contemporains, mais aussi pourquoi en fait on a un divertissement qui est quand même très orienté sur des thématiques un petit peu masculines, SF, heroic fantasy, etc. Donc après, il est évident qu'en se développant, on est resté un petit peu dans cette culture-là, cette matrice-là, même si ça a pu évoluer. Alors on peut prendre différents exemples, Balance of Power de Chris Crawford, où on est dans le contexte de la guerre nucléaire entre effectivement la Russie et les États-Unis, puis il faut essayer de l'éviter, et Chris Crawford voulait donner l'alerte par rapport justement à cette crise du nucléaire dans les années 80. On peut évoquer, évidemment, vous le connaissez tous, Civilization de Sid Meier. Alors Sid Meier, il s'inscrit parfaitement dans cette époque du début des années 90 où on considère en fait que les États-Unis ont le meilleur modèle politique puisque les États-Unis ont en quelque sorte vaincu l'URSS, c'est la fin de la guerre froide. Et effectivement, c'est un peu l'image donné par le jeu Civilization, c'est-à-dire que en fait une civilisation doit évoluer, doit progresser en adoptant le modèle un petit peu américain, passant de la tyrannie, en passant par le régime soviétique, puis la démocratie virtuelle américaine, qui est considérée comme le régime le plus évolué. Et puis il faut fabriquer des piquets au Moyen-Âge, la bourse de Londres à l'époque plus contemporaine, etc. Donc on a un schéma évolutionniste qui légitime d'une certaine façon la domination américaine sur le monde, la domination de l'Europe, etc. Et évidemment, il y a plein d'autres exemples, on y reviendra.
Sur la question militaire, je mettrais peut-être un bémol sur le jeu vidéo. Alors, autant Internet, la création d'Internet est liée à... Évidemment, je ne parle pas du 3W, du World Wide Web, mais bien d'Internet et bien lié à l'armée américaine. Le jeu vidéo était peut-être vu comme un programme qui permettait de traduire la révolution informatique en quelque chose de lisible. Voilà, si je vous montre, vous savez pas ce que c'est l'informatique, mais si je vous montre un jeu vidéo, vous allez savoir ce que c'est. Et d'ailleurs, du reste, dans les années 60, partout dans le monde, enfin partout, il va y avoir un ordinateur, et pas seulement dans les laboratoires militaires, il va y avoir du jeu vidéo, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas forcément lié à une pure création de l'armée américaine. En tout cas, ça me paraît...
Non, c'est pas une pure création de l'américaine. J'indique simplement qu'il s'agit du contexte de création. Après, évidemment, l'industrie du jeu vidéo prend son indépendance dans les années 70, 80, 90. Il n'en reste pas moins que ce lien entre le jeu vidéo et les armées est toujours resté très prégnant. qu'on pense par exemple aux simulations militaires, on est passé quand même du Doom-like, qui avait une représentation très très pop, c'est-à-dire du jeu de tir, où on affrontait des aliens dans un décor très pop, avec du sang, des hémoglobines et des aliens, à ce qu'on a appelé le first-person shooter, qui est adapté en quelque sorte de la représentation de l'armée américaine, tout simplement parce qu'à un moment donné, les armées ont considéré que les évolutions technologiques qui étaient dans le commerce pouvaient leur servir dans le développement des simulateurs destinés à entraîner les armées et puis aussi à simuler de futurs combats. Et du coup, forcément, il y a une synergie qui s'est créée. Il ne s'agit pas simplement de propagande, c'est-à-dire chacun y voit son intérêt. Les armées bénéficient des technologies les plus performantes et l'industrie du jeu vidéo fait subventionner une partie de la production sur des fonds publics. Donc chacun y voit un intérêt et cette synergie a pu se développer et a donné lieu à un certain nombre de jeux vidéo. On pense par exemple Delta Force, Rainbow Six, Rockspire et récemment Arma 3 par exemple. Et évidemment, des studios qui ont commencé à travailler sur des jeux vidéo bossent maintenant pour certains exclusivement pour l'armée. C'est le cas de la société française 16 Maza qui a conçu le jeu de stratégie Conflict Zone.
Il y a même aussi un outil qui est très, très utilisé par les armées dans le monde qui s'appelle VBS.
Voilà.
Virtual Battlefield.
Oui, qui est un peu l'adaptation d'Arma.
Et qui est développé historiquement par une société de jeux vidéo.
Tout à fait.
Et qui est, aujourd'hui, je pense qu'ils font quasiment plus que ça. C'est-à-dire que finalement, ils concentrent leurs travaux sur ces simulations à usage militaire réel, d'entraînement bien sûr, alors qu'au départ, ils faisaient des jeux de wargame, ce genre de choses.
Louis-Marie Roch, c'était une question soulevée par Tony Fortin, c'est-à-dire d'où vous parlez. C'est-à-dire que oui, vous faites une simulation géopolitique, mais quand on parle de géopolitique, on parle toujours de quelque part. Quand on parle de la France, on va plutôt se centrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on connaît d'ailleurs. Mais si on est chinois, on n'aura pas la même vision du monde. Si on est américain, on n'aura pas la même vision du monde, même si on s'en rapproche. Donc d'où vous parlez ? Est-ce que vous êtes conscient de ce, si je puis dire, problème, en tout cas, ce biais qui est forcé, qui est naturel ?
Oui, alors forcément, nous, pour concevoir un jeu de simulation globale de géopolitique, où on peut finalement incarner n'importe quel chef d'État du monde actuel. Il y a des États, des gouvernements de toute nature, et il y a un point de vue. Et alors, nous, on a essayé d'avoir une espèce de forme d'objectivité, mais c'est déjà un biais, de toute façon, par nature. Mais le moins mauvais choix qui nous a semblé à faire, c'est de prendre le point de vue... Enfin, pas le point de vue exactement, mais on va dire se baser sur des données raisonnablement objectives, qui sont celles qu'on va trouver à l'ONU, par exemple. Beaucoup de données, on a utilisé aussi beaucoup de données issues de l'OCDE, statistiques diverses, de PIB, par exemple, de population, etc. Et ça nous a permis, en fait, de construire des bases de données importantes, de données que nous mettons à jour en permanence, en fait, pour reconstruire un modèle aussi juste et aussi objectif que possible.
Par exemple, un pays démocratique contre un non-pays démocratique. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un classement, un classement de la démocratie
oui,
pays démocratique, c'est ça dessus.
Il est vrai que voilà, sur cette problématique-là, il a fallu qu'on prenne position. Alors, la position qu'on a prise, c'est de dire qu'il faut classifier. Nous, dans l'intérieur du jeu, on va classifier entre extrême gauche et extrême droite, déjà des partis politiques, parce qu'ils sont tous représentés, ceux de tous les pays du monde. Et déjà, cette forme de classification, c'est déjà un choix qui n'est pas forcément partagé par tous. Au-delà du côté gauche-droite, qui est un élément, il y a aussi un côté, est-ce un régime dictatorial ou plutôt une démocratie ? Les deux sont. C'est pas parce qu'on est à gauche ou à droite qu'on est une dictature ou une démocratie. C'est pas directement lié. Cependant, on a essayé de représenter des choix qui sont, là encore, une vision un peu finalement de pays occidentaux. Bon, en même temps, c'est ce que nous sommes, c'est de là où nous venons. Et puis c'est aussi là le jeu est utilisé par ces personnes. C'est eux qui vont l'acheter. Donc il faut que eux comprennent où on veut en venir, le pourquoi, qui retrouvent la logique de ce que nous avons construit à l'intérieur. Mais il y a quand même quelques paradoxes. Je peux citer un exemple, c'est que en 2008, on avait vendu une version à un éditeur russe qui l'a localisée en langue russe et mis sur le marché. Et donc, ils ont, en le localisant, eh bien, ils nous ont demandé en fait de changer la classification de l'État russe. Parce que nous, on l'avait qualifié de régime présidentiel fort. Ce qui n'est pas extrême, hein, en soi. Mais nous, eux, leur vision, ils ont dit, pour que nous, la manière dont se représentent les gens de leur pays, de leur gouvernement, c'est plutôt au centre. Voilà. Et donc, du coup, on voit exactement que les points de vue peuvent être différents.
Est-ce que les jeux viennent toujours de quelque part, ont toujours un regard? Est-ce que ça vient toujours d'un monde, d'un univers? Voilà, le jeu français aura tel biais, ou est-ce qu'on essaie d'être mondialisé? On parle souvent de... souvent, les éditeurs contestent en disant non, on ne fait pas de French Touch, par exemple, on fait des jeux pour le monde entier, donc ça élimine quasiment tous les biais, en tout cas tous les regards. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'on parle toujours de quelque part?
Ouais, ça rejoint un peu ce qui était dit lors de la dernière table ronde. En fait, c'est ce que je répète toujours aussi à mes étudiants, c'est-à-dire que chaque développeur, il n'est pas neutre face à son écran. Il peut être animé de toutes les attentions du monde et vouloir créer le jeu le plus neutre possible. Il arrive avec son bagage culturel, l'endroit où il est né, les films qu'il a vus, les livres qu'il a lus, etc. Et ça va se refléter inconsciemment ou non dans sa vision des choses. Il est clair quand même qu'aujourd'hui, comparé à il y a 30 ans, il y a une diversité dans le jeu vidéo qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans. On assiste notamment au développement du jeu vidéo indépendant, au développement de l'industrie du jeu vidéo dans l'Europe de l'Est notamment, aussi dans certains pays d'Afrique. Et il est évident que cette vision-là est différente. Si on prend la vision géopolitique, le rapport à la guerre, le rapport au conflit, il est différent en fonction des jeux japonais et occidentaux. Dans Kojima, on est quand même confronté aux ennemis qu'on a tués. On est face à une méfiance vis-à-vis du pouvoir militaire. Dans les jeux d'Europe de l'Est, tels les créateurs de This War of Mine ou The Witcher 3, on a une dénonciation de la guerre qui est vue comme une brutalité pure, et parce qu'ils ont connu la guerre pendant plusieurs siècles, et elle ne s'est pas arrêtée tout au long du XXe siècle avec l'arrivée l'invasion des Soviétiques et puis de l'Allemagne nazie. Donc on a dans The Witcher 3, tous les personnages sont un peu des gens qui fuient la guerre pour aller se réfugier quelque part, et d'ailleurs Geralt, leur principal, va leur offrir l'hospitalité. Donc on a une vision un petit peu différente de certains jeux de guerre occidentaux qui désignent l'autre comme ennemi. Mais même dans les jeux vidéo occidentaux, il y a des ruptures, notamment dans le AAA, les Mass Effect, par exemple, abordent la guerre contre le terrorisme dans Andromeda. Sur la planète des Angara, on voit que la lutte contre les Kert provoque une radicalisation des pans de la résistance, d'une partie de la société qui commet des actes terroristes. Et à un moment donné, le jeu nous place face à un choix. Est-ce qu'on assassine, oui ou non, le leader terroriste? Et évidemment, le jeu nous encourage à l'épargner, puisque, en gros, il y a le risque qu'on pérennise ce conflit. Donc il y a une forme de critique de l'armée américaine. Donc ça passe beaucoup par la science-fiction dans le jeu vidéo. La figure des Mass Effect est un formidable traité de géopolitique. C'est assez formidable la façon dont il représente, à travers le Conseil de la Citadelle, une forme de conseil de sécurité bis qui est guidé par certaines races qui utilisent leur pouvoir, ce multilatéralisme de façade pour opprimer d'autres races, telles que les Krogan, qui sont toujours exclus, que ce soit dans Andromeda ou dans les précédents opus, et qui font l'objet de racisme parce qu'elles ont été colonisées. En fait, dans le passé, elles ont été victimes d'un atroce procédé d'eugénisme, ce qu'on appelle le génophage, etc. etc. Donc on voit bien comment Mass Effect passe par la SF pour critiquer certaines dynamiques à l'œuvre dans le monde réel, la dynamique de la colonisation. Et on voit bien que les plaies de la colonisation ne sont pas résolues. Et il faut passer aujourd'hui par un jeu américain pour s'en rendre compte.
Mais est-ce que les créatrices et les créateurs, du coup, on en revient aussi à la table ronde précédente et à la définition de la poésie, est-ce qu'ils ne sont pas obligés de faire de la poésie pour parler de tout ce dont vous parlez là. Parce que bon, on peut jouer à Mass Effect en passant à côté de tout ça, en comprenant évidemment quelques métaphores, quelques symboles. Mais est-ce qu'il n'y a pas une confrontation entre l'industrie, je parle là du coup l'industrie lourde, c'est-à-dire vraiment on veut des gros succès et les jeux à gros budget, et le fait de pouvoir être reflet de son monde et de son propre monde, voire de critiquer aussi ce monde ou des décisions, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas obligés de jouer les poètes, hein, de cacher un peu les...
Oui, c'est vrai que c'est compliqué, j'imagine, de traiter frontalement de certains problèmes. C'est peut-être pas non plus très, très vendeur. Par exemple, il y a des jeux excellents sur le plan géopolitique. Enfin, je pense que M. Louis-Marie Rogue va pouvoir aussi aborder cet aspect-là. Mais c'est, à mon avis, c'est compliqué de s'en sortir commercialement en abordant frontalement certains problèmes géopolitiques. Je pense à un excellent jeu qui s'appelle 1979 Black Friday, qui aborde la révolution iranienne à travers un gameplay à la Beyond Good and Evil, où on incarne un participant à la révolution iranienne de 1979 qui doit photographier sa ville pour apprendre, reconnaître les causes de cette révolution et participer aussi à cette révolution. On a le choix entre l'usage de la force ou des moyens plus pacifiques, avec en toile de fond cette question: est-ce que la fin justifie les moyens? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en explorant la ville, en rencontrant ses habitants et les participants de la révolution, on va voir la diversité de la société iranienne de cette époque. En 1979, loin des clichés, on s'aperçoit que les gens qui ont participé à cette révolution 79, ben, il y avait un peu de tout. Il y avait des communistes, il y avait des musulmans modérés, des partis islamistes modérés, des islamistes plus radicaux. Il y avait vraiment différents pans. Des démocrates, etc. Et tout s'était associé pour faire tomber le régime du Shah. Mais c'est un jeu qui s'est assez mal vendu, malheureusement. Voilà.
Avant de poser la question commerciale à Louis-Marie Rock, comment on fait entrer les vraies crises, finalement, dans un gameplay, dans un jeu? Comment on fait rentrer? Est-ce que le Covid est à l'honneur de Geopolitical Simulator, par exemple?
Oui, c'est tout à fait exact. Et parce que finalement, dans la nouvelle version 2020 édition, que nous venons de sortir en fait il y a quelques semaines, nous avons intégré une simulation très détaillée de l'épidémie du Covid, et qui est que le joueur affronte de deux manières, c'est-à-dire il doit affronter la gestion sociale, les problèmes sanitaires, donc il peut agir là-dessus, ça c'est un premier élément, mais aussi il va être confronté à la crise économique qui suit, j'allais dire, et qui dure très longtemps, à travers les simulateurs, le simulateur économique qui fait partie de notre jeu. Et il se trouve que, normalement, nous, on avait planifié de sortir notre édition 2020, en gros, au mois de mars. Sauf qu'à ce moment-là, le Covid a pris une ampleur très, très grande, et nous qui devons chaque année représenter avec une nouvelle édition le monde aussi juste que possible, impossible de ne pas le faire. Et bien, du coup, ça nous a forcé, je veux dire, à retarder d'environ 6 mois la sortie. Bon, après, je pense que c'est pas grave de retarder de 6 mois, parce qu'au final, le jeu devient crédible, en fait. Sinon, il ne l'aurait pas été.
On parle de post-apo cet après-midi. Est-ce que vous allez jusqu'à l'apocalypse? Est-ce que dans cet pré-effondrement, est-ce que vous allez jusqu'à l'effondrement? Est-ce que, par exemple, si voilà, je vais jouer un chef d'État, est-ce que mon pays peut littéralement s'écrouler?
Oui, complètement. Oui.
Et comment ça se concrétise? Est-ce que ce sont des manifestations? Est-ce qu'on se retrouve comme dans Fallout avec un aspect tribal et on le disait tout à l'heure, avec plus que des gens qui totalement individualistes et qui ne pensent qu'à vous tuer ou à vous voler? Comment ça se concrétise?
Alors, il y a plein de façons dans le jeu qui permettent, qui font que le joueur va perdre. Et ça peut être, par exemple, parce qu'il y a son pays est en crise économique très grave, une sorte de collapse économique. Et dans ces situations-là, le joueur va perdre le pouvoir. Il sera chassé du pouvoir ou victime d'un attentat parce que des gens ne supporteront plus son action. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Le pays peut être dévasté et conquis par un pays adverse. Enfin, adverse. Un pays qui voit plutôt l'opportunité d'une conquête. Bon, ça dépend aussi quel pays on joue, bien sûr. Donc, il y a plein de manières différentes. qui font que il n'y a pas un modèle. Mmh. Il n'y a pas une histoire entre guillemets fixe qui est prévue à l'avance. Non, il y a tout un tas d'événements possibles. Et certains d'entre eux mènent à des fins de partie plus ou moins gravissimes et spectaculaires.
Est-ce qu'il y a un mouvement social ou un mouvement revendicateur comme Black Lives Matter ou MeToo peut se retrouver dans votre jeu?
Oui. En fait, on, dans le jeu, on représente. On a à l'intérieur de chaque pays, je parlais tout à l'heure, on représente tous les partis politiques existants, mais on a aussi tout un tas de groupes, des groupes associatifs, des groupes, je sais pas moi, de défense, des lobbies, des choses comme ça. Tous ces groupes, ça peut être des syndicats par exemple, peuvent en fait agir contre le joueur si ces groupes décident par des calculs d'intelligence artificielle que son action est contraire à leurs objectifs. Et donc là, peuvent se produire à l'intérieur du jeu des manifestations qu'il faudra contrer. Alors moi, je ne sais pas si on pourrait montrer une image. Alors,
je ne sais pas comment les montrer, si on peut m'aider, parce que je suis juste sur le logiciel photo et je dois bien avouer que...
Je
ne
sais pas si on l'est. Alors,
ouais, je ne suis pas sur le...
Oui, il faudrait faire. Oui, alors il y a l'image la 5 qui commence par 0,5.
Pardon, on prend 2 minutes, comme quoi l'apocalypse ne nous sauve pas de PowerPoint, mais peut-être que ce sera l'un des...
Ouais, voilà. Donc,
là, c'est précis, là, c'est pas des tableaux, on n'est pas sur des tableaux. Là, on est un peu plus sur des tableaux.
Oui, c'est ça, je voulais illustrer, parce que comment se passe à l'intérieur du jeu, il peut se dérouler à l'intérieur du jeu des manifestations qui vont se traduire par une sorte de jeu dans le jeu, où finalement on doit même tactiquement développer, lutter contre différents troubles. Donc là on a des forces de police, on peut avoir des hooligans, des manifestants qui ne sont pas forcément liés effectivement aux hooligans ou qui n'ont pas la même idée de la violence. Et le joueur doit agir, mais il peut agir, dire ben, j'envoie la police, ça peut être une manière d'arrêter un mouvement, il peut aussi envoyer l'armée. C'est évidemment beaucoup plus grave, mais ce qui est aussi une manière de mettre fin à un mouvement. Mais ce n'est pas la seule solution, parce que dans le jeu, finalement, on peut arrêter un mouvement de contestation tout simplement en passant des lois ou en changeant des législations. On peut aussi négocier avec les leaders par l'ensemble de ces actions. Ça peut être un mix, hein, j'envoie la police pour faire peur, je négocie avec le leader d'un mouvement, et je passe un certain nombre de législations, et ça fait que ça calme en fait la contestation. Voilà, donc là on voit un panneau où, par exemple, on voit qu'on peut gérer le budget et toutes les taxes, hein, donc tout est calculé de manière assez fine, jusqu'à un certain niveau de détail bien sûr, parce que il y a beaucoup beaucoup de taxes dans la réalité. Nous on en a à voir une trentaine, ce qui est déjà pas mal.
Tony Fortin, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais ça sert à quoi l'apocalypse, l'effondrement finalement dans un jeu? Ça a servi à quoi et ça sert à quoi dans les jeux vidéo? Ça sert à rebooter, comme on dit, et puis à se dire bon bah tiens, on peut laisser parler l'imaginaire et construire quelque part un nouveau monde, et donc le monde que l'on veut vraiment, et qui sert d'ailleurs le gameplay, etc., avec tel type de gameplay. À quoi ça sert en fait parce qu'il y en a beaucoup, il est difficile de donner tous les exemples de jeux post-apo. À quoi ça leur sert aux développeurs et aux développeuses ?
Il y a cette idée que par l'effondrement, il y a un côté un peu biblique, on va renaître, on va refonder un monde nouveau. Et c'est là où effectivement le jeu vidéo donne une vision assez, assez pessimiste, parce que généralement, un peu d'ailleurs comme dans le cinéma et la littérature, les divisions sociales antérieures refont surface. On le voit évidemment dans Fallout, où il y a une série de gangs qui se font la guerre. Il y a aussi, et d'ailleurs les Fallout sont assez intéressants parce qu'on voit que petit à petit ils sont imprégnés d'une vision beaucoup plus de plus en plus pessimiste, puisque dans les premiers, ce qui était assez intéressant, il y avait une scène très intéressante où il y avait dans un village des gens qui étaient affamés, et à côté vivaient des fermiers, et ils convoitaient effectivement les biens, les champs des fermiers, et on risquait à tout moment effectivement le conflit. Et le jeu te vous mettait dans une position où qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rétablissez le lien entre les fermiers et les villageois, ou est-ce qu'au contraire vous créez le conflit? Et on voit que dans les derniers Fallout, les enjeux sont beaucoup moins posés, c'est beaucoup plus militarisé, peut-être aussi à travers ce mode de représentation TPS-FPS. On s'aperçoit que l'homme est vraiment un loup pour l'homme, pour prendre un peu la formule de Hobbes. Donc, et c'est vrai que le jeu vidéo suit cette trajectoire où on a l'impression que... avec le post-apo, on n'a pas d'autre alternative que finalement reproduire le monde que l'on connaît déjà, avec ses divisions, ses structures de domination. Et c'est quelque chose qu'on peut reprocher un petit peu aux jeux vidéo, c'est de ne pas croire en des alternatives autres que celles qui ont déjà été discréditées. Par exemple, il n'est pas rare que on désigne l'alternative communiste latino-américaine comme étant l'ennemi à abattre, hein, ce qui peut être justifié, puisque généralement il s'agit de dictature, mais conduit trop généralement une assimilation à un bloc communiste, c'est-à-dire à des idées autres, qui seraient forcément condamnables, parce que derrière l'objectif d'égalité se cacheraient de viles attentions, nécessairement de viles attentions.
Il y a une raison à ça qui est très concrète, hein, c'est que les concepteurs et les développeurs de jeux veulent vendre au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste une idée de vouloir... Enfin, il y a une partie quand même, en tant que créateur de jeu, d'essayer d'amener des idées neuves ou certaines pensées, on va dire, à livrer à des joueurs. Mais c'est aussi le fait de vendre fait que on va choisir, on va dire, à qui on va vendre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le design de plein de jeux. Et donc, on est, pour le coup, très caricatural, parce qu'il faut désigner des méchants, il faut désigner, etc. Ce qui amène à des jeux, qui n'ont pas forcément, qui représentent pas tous les courants possibles, évidemment. Parce que ces autres courants sont peut-être des niches, un peu comme, on va dire, certains films d'auteurs s'adressent qu'à un public averti, du coup, on va faire moins d'entrées.
Oui, on est dans la négociation de ces conventions, puisque effectivement dans leur bouleversement, puisqu'on voit bien à travers les jeux de Taro Yoko, développeurs de Drakengard et Nier, ou d'autres, on questionne le rôle de l'ennemi, mais sans revoir cette idée de conflictualité, d'affrontement, etc. Mais il y a des jeux qui le tentent, je pense par exemple à Peacemaker, que vous connaissez sans doute, jeu d'Impact Games sorti il y a 13 ans, qui est un jeu de résolution du conflit israélo-palestinien. On incarne soit le leader israélien, soit le leader palestinien, qui doit trouver les moyens de bâtir la confiance avec son opposant. Et c'est loin d'être un jeu béni, oui, puisqu'on affronte énormément d'obstacles, et on doit justement se questionner sur ses représentations, délégitimer ses propres extrémistes. L'ennemi, c'est pas l'autre, mais il est à l'intérieur de son camp, en fait. Donc on doit se poser la question de comment effectivement contrôler des actions violentes au sein de son camp, mais aussi trouver les bons mots pour rétablir la confiance. Donc bref, une vision un petit peu équilibrée, et qui tend vers un autre objectif que la guerre.
Mais à noter, ce qui est important de dire, c'est que ce jeu, je crois, n'est pas un jeu commercial.
Non.
Je crois qu'il a été financé par l'ONU ou un organisme de l'ONU.
Oui.
Il a une vocation autre, du coup.
Oui.
C'est pour ça que, d'ailleurs, il montre d'autres voies possibles qu'une espèce de violence un peu basique qu'on trouve dans beaucoup de jeux. Mais voilà, oui, ce n'est pas un jeu commercial. Et donc, ça explique aussi.
Est-ce que ça marche, Geopolitical Simulator 4, puisque Tony Fortin
c'est un jeu qui...
suggérer la question de savoir si un jeu à tendance réaliste pouvait intéresser les gens.
Alors, disons que nous, dans l'idée de la conception du jeu, au départ, on s'est dit qu'il faut s'approcher quand même d'un modèle existant, et je vais dire, notre modèle, quelque part, c'est un peu civilisation. Sauf que civilisation, il n'y a pas d'exigence de réalisme, vraiment. Enfin, il y a une espèce de toile de fond, bien sûr. Mais nous, on a dit non, c'est une simulation. On s'impose des règles calculatoires à tout point de vue. ce qui rend la chose difficile, hein, d'ailleurs. Mmh. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gens qui jouent à nos jeux, ce n'est pas un public aussi large que celui de Civilisation. Parce que mais pour jouer à un jeu aussi complexe, eh bien, il faut s'impliquer énormément. Il faut être, avoir une certaine culture, une compréhension, je ne sais pas moi, de la diplomatie, du monde qui nous entoure à tout point de vue.
On va laisser, si vous avez une ou deux questions, pour parler de géopolitique, hein, c'est un thème important. Hein, c'était une réponse à l'autre table ronde, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière la poésie, ou en tout cas les propos des créateurs, et on se rend compte que bon, voilà, ce monde est là. Donc, si vous avez une... Et merci à vous deux, en fait. Bravo.
Bonjour. Merci, c'est une question par rapport au jeu que vous avez présenté. Est-ce que, en partant du principe que le joueur joue tout seul et peut mener un pays à sa perte par lui-même, est-ce qu'on n'a déjà pas un point de départ qui est assez biaisé quand on parle notamment de démocratie? Et en gros, un joueur qui va choisir un pays démocratique peut mener une démocratie à sa perte par ses propres choix. Comment vous abordez ce problème-là?
Alors oui, tout ça peut être fait. Alors, ça passe pour, on va dire, si un joueur démarre avec ou il incarne un chef d'État d'un pays démocratique, il peut pas à pas, par des législations successives, transformer son pays en une dictature. Ou inversement, d'ailleurs. Hein. Ça fait, d'ailleurs, on a construit, dans le jeu, on peut choisir des scénarios, et des missions. Certaines missions, c'est transformer votre dictature en une démocratie. Voilà. Et donc, ça passe par le changement pas à pas, je le rappelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on change trop directement ou trop violemment une législation, elle ne sera pas acceptée par les différents pouvoirs, on va dire, qui sont dans le pays, qui sont d'une part le peuple, mais il peut y avoir d'autres pouvoirs, et qui feront chuter le chef d'État.
Une autre question. Merci. Oui.
Bonjour. Je me demandais, pour Geopolitical Simulator, vous aviez parlé du biais dans la réalisation de jeux vidéo un peu plus tôt. Est-ce que vous pensez que ce jeu est imprégné par un biais fort de votre part? Et sinon, comment est-ce que vous êtes battu, entre guillemets, contre votre biais pendant la réalisation du jeu pour éviter d'avoir un point de vue ethnocentré, entre guillemets?
Bon, je ne crois pas que j'ai la bonne réponse, enfin une réponse certaine. Ce qu'on peut dire, c'est que de par ce que nous sommes, nous, les créateurs de ce jeu, c'est forcément imprégné de quelque part un peu de notre point de vue, même si, comme je disais, on a fait un certain nombre d'efforts pour essayer de garder une objectivité. Par exemple, on est, dans certains cas, on reçoit des utilisateurs qui nous disent « Mais pourquoi ?» pourquoi tel pays n'est pas jouable, par exemple? C'est parce que nous, on a dit bon, ben, on prend le modèle de l'ONU. Ce qui est considéré comme un État par l'ONU, ça sera un État dans notre jeu. Sinon, c'est un territoire contesté ou un opposant qui n'a pas réellement le pouvoir. Alors maintenant, il est vrai que à aucun moment on peut avoir une certitude de faire le bon choix, mais en même temps, nous vendons la quasi-totalité de nos jeux à des pays occidentaux. Donc, on est un peu tenu de leur transmettre finalement une vision qu'ils comprennent.
Une dernière question.
Merci beaucoup. Bonjour. Donc, ma question, en fait, elle concerne un jeu qui ressort, bah là, vu qu'on parle des crises en ce moment, qui est ressorti chaque fois qu'il y a eu une crise sanitaire, c'est-à-dire en 2014 avec Ebola et cette année en 2020, qui s'appelle Plague Incorporated. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous voyez. En fait, c'est un petit jeu qu'on trouve aussi sur téléphone, sur tablette, un peu partout. Et on joue l'épidémie. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'éradiquer l'humanité par tout un tas d'actions, au fur et à mesure que l'épidémie se développe, on gagne de nouvelles aptitudes, etc. Et surtout, dans ce jeu, l'ennemi, ça va être les gouvernements. les États, etc., qui vont essayer, eux, de développer un vaccin. Et on va essayer de contrecarrer ça, l'objectif étant d'éradiquer un peu tout le monde. Je sais que ce jeu, par exemple, il a été interdit en Chine, en plein cœur de l'épidémie, parce que c'était considéré comme antipatriotique de vouloir pour que la population joue quelque chose qui lutte face à son gouvernement. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, que le fait que ce jeu, en fait, chaque fois qu'il y a des crises comme ça sanitaires, il revienne un peu à la mode et que les gens se mettent à y jouer.
Tony Fortin, vous avez joué à Plague Inc.
J'y ai pas joué, par contre je sais qu'ils ont fait aussi Rebel Inc, c'est ça aussi, et ça me semble un peu en phase avec une évolution, c'est-à-dire parce qu'on sait qu'il y a des simulateurs, enfin des jeux qui sont évidemment destinés à nous citoyens, mais il y a aussi des simulateurs qui sont destinés au gouvernement, aux gouvernants, je pense à CS System, MASA, qui font justement des jeux destinés à ce qu'ils appellent au contrôle des foules. Et dans des jeux de tels que CS, enfin des simulations telles que CS System destinées au ministère de l'Intérieur ou à d'autres organismes, en fait l'idée c'est vous avez une crise qui peut être des débordements dans un match de football, des émeutes dans la rue, des manifestations, et vous devez utiliser une solution de type policière ou militaire pour en quelque sorte juguler les troubles. Et cette dynamique, enfin, autant je pense que quand le jeu vidéo est une œuvre de l'esprit, ça pose pas de problème. Je veux dire, c'est tout le monde peut en débattre, comme votre jeu, c'est intéressant, c'est dans le débat public. Mais quand c'est des outils aux mains des décideurs, ça pose d'autres questions. Et le fait d'apporter une seule réponse technique et policière face à des problèmes extrêmement complexes, qu'ont des causes sociales profondes qu'il faut réexaminer, ça pose quand même problème. Et là, on le voit dans le choix fait par ce studio d'utiliser le même moteur quasiment entre, d'un côté, effectivement, une émeute, un problème sanitaire qui se propage, et puis de l'autre, des mouvements rebelles dans Rebel Inc. Qu'il faudrait en fait contenir. Donc là, on a quand même une simplification des problèmes, et puis surtout cette idée que les problèmes, on va le résoudre par des questions techniques, par l'urgence, par des réponses immédiates qui quand même posent problème, parce qu'il faudrait s'interroger sur les causes des crises, évidemment les causes des crises sanitaires, pourquoi le virus aussi s'est propagé aussi rapidement, l'urbanisation galopante qui a permis aussi ça, sur des causes profondes, structurelles, et pas uniquement par l'urgence. Et c'est un biais des simulations, c'est uniquement de nous proposer une réponse immédiate à des phénomènes de long terme, alors que justement on doit se poser pour débattre de ça de façon démocratique, prendre le temps d'examiner les problèmes. Et on voit bien comment aujourd'hui, c'est un peu embolisé par la communication sur les réseaux sociaux, la communication politique. Tout va très très vite et on n'arrive plus à s'interroger sur les causes à long terme des crises que l'on rencontre. Voilà. Et on pense que la technique, telle que les jeux vidéo, les simulations, va être une réponse à ça. Or, ça ne remplacera certainement pas notre libre arbitre, le temps du débat démocratique, que ce soit au Parlement ou dans des groupes de citoyens. Voilà.
On prend une toute dernière question au fond.
Une dernière question.
Vous m'entendez ? Oui. Juste une question pour Geopolitical Simulator. Je me demandais, est-ce qu'en développant ou en jouant à votre propre jeu, vous avez pu être surpris par les enchaînements ou par les conséquences, enfin la modélisation que vous avez développée ?
De nombreuses fois, oui. Parce que en fait, pour développer ce jeu, il y a beaucoup de choses très très compliquées dans les calculs de simulation. Et on retrouve très souvent ce qu'on appelle des effets papillons, c'est-à-dire une toute petite erreur provoque un cataclysme, notamment économique. Et alors, pour tester en fait la stabilité de notre moteur macroéconomique, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse tourner l'intelligence artificielle contre elle-même pendant des temps très très longs. Et on le fait tourner pour dérouler, par exemple, 100 ans virtuels. Alors on fait tourner ça pendant, 3-4 jours, sans cesse, sur une machine, et on observe les résultats. Et ça nous est arrivé de constater que, ça remonte à quelques années, mais ça nous est arrivé de constater que la Russie avait conquis 90% du monde. Au bout de je sais pas, une quinzaine d'années après le début de la partie. Du coup, on s'est interrogé, mais pourquoi ? Et en fait, on s'est aperçu, après analyse, c'est que on avait donné un tout petit peu trop de puissance aux fantassins dans les armées. Puisque chaque type d'arme a, on va dire, une puissance d'attaque, une puissance de défense, ce genre de choses qu'on trouve dans les wargames. Et on avait donné un petit peu trop. Alors, j'ai plus les chiffres, mais au lieu de donner, par exemple, 12, on avait donné 15. Et comme l'armée russe est constituée d'un nombre énorme de fantassins, bien plus important que la plupart des pays occidentaux, eh bien, ça avait donné la victoire, en fait, à la Russie dans des conflits très longs. Et donc, au bout d'une quinzaine d'années, oui, ils avaient réussi à conquérir. Donc, on a été très surpris par ça. Et des choses comme ça, on en a vu des dizaines qui nous ont parfois très étonnés et qui nous ont fait découvrir, en fait, des bugs ou nous ont amené à complètement améliorer les calculs après.
Et comment vous gérez l'aléa, en fait, le fait qu'on est souvent surpris par un événement imprévisible en géopolitique, on appelle le signe noir, c'est ça, et qui bouleverse toujours. Comment gérer l'aléa ? C'est ce que posent d'ailleurs les concepteurs de simulateurs militaires. Tout le monde a une façon différente de gérer l'aléa. Certains vont prévoir des événements scriptés, d'autres des modèles probabilistes, etc. Mais personne ne sait, en fait, comment vraiment le gérer.
Alors, nous, on est plutôt sur les modèles probabilistes, on va dire, mais il arrive que, dans certains cas, on va scripter certains événements, ce qui revient à dire, en gros, qu'ils sont très probables, enfin, où il suffit de quelques conditions simples pour qu'ils deviennent incontournables. Mais quand c'est probabiliste, c'est pas juste, bon, bah, la proba, c'est X%, non. C'est toujours des calculs sur des coefficients, et ces coefficients qui eux-mêmes évoluent. Et donc, quand la somme de ces coefficients font que ça atteint un certain seuil, eh bien, ça déclenche. Et s'il y a 20 ou 30 variables dans la formule, eh bien, ça veut dire qu'il faut agir à tout un tas de niveaux, mais ça peut causer plein de branches possibles, finalement, dont déclencher d'événements. Voilà.
Merci. Merci à vous. Merci à vous deux d'être intervenus pour cet après-midi. Tony Fortin et Louis-Marie Roch. Je vais laisser la parole à Nathanaël pour présenter un nouveau projet de jeu. Merci à vous.
Oui, et on passe du coup au groupe Leviathan Quest. Tant que Chloé lance la vidéo.
Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter aujourd'hui notre jeu, The Leviathan Quest. Dans ce jeu, vous incarnez Brice, un humain australien de 21 ans, qui doit survivre à un cataclysme naturel. Ce sont que les eaux du globe sont montées très rapidement, voire à 90% de la surface du globe a été engloutie par les eaux. Et les humains sont partis très précipitamment, car c'était très 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 rapide. Vous devez les rejoindre avec le vaisseau de secours. Mais sur votre chemin, il y aura des monstres, des êtres marins qui ont muté. Ces êtres s'appellent des Léviathans. Notre équipe est constituée de Alan comme graphiste, Alexandre comme level designer, Maceo comme game designer, Justin comme sound designer, Anton comme programmeur et comme narrative designer, moi.
Merci.